une des femmes que j'ai présentées tout à l'heure, le père Marc Rastoin, qui est jésuite, bibliste. Il est donc directeur du troisième cycle du centre de Sèvres, des arts, en théologie. Et ce soir, il va nous parler de l'hymne à la charité, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Merci beaucoup.
Voilà, donc très heureux de voir des normaliens. Moi, ma sœur aurait pu être avec vous, mais par pietas, pour faire plaisir, sachant déjà qu'elle voulait être carmélite, c'est la prieure du Carmel de Montmartre. C'était la première polytechnicienne religieuse de l'histoire de France, docteur en astrophysique à 25 ans. Je ne suis pas digne d'arriver à la courroie de ses sandales. Et elle a choisi, alors elle aurait voulu faire maman évidemment, mais famille d'X, petit-fils, fils, etc. Elle savait qu'elle faisait un grand plaisir à son père, à son grand-père. Donc elle dit, bon, ok, je vais me casser le genou gauche sur les terrains de combat de la Courtine. Bon. Et après, je ferai ce que je veux vraiment faire, c'est-à-dire ma thèse d'astrophysique, alors c'est ce qu'elle fait. Donc elle a vraiment l'esprit plus normalien, donc c'est une polytechnicienne à l'esprit normalien.
Voilà. Cécile.
Cécile, voilà. Donc, comme je dis souvent, alors, quand je te demandais ça, on me demandait, t'as fait ton service militaire? Je dis non, j'ai envoyé ma sœur, j'ai un permis sur lui. Et puis, il y a 2-3 ans, on me dit, t'as prêché Notre-Dame déjà? Je dis non, j'ai envoyé ma sœur, parce qu'elle a fait ça aux conférences de Carême il y a 3 ans, magnifiquement, sur... Regardez ça sur YouTube, sur le silence, la place du silence dans nos vies. Une très belle conférence. Voilà. Et ma sœur et moi, notre unité un deux fois, Tim ne l'a pas dit, mais c'est beaucoup avec l'hébreu et le judaïsme, la tradition juive. Donc on a commencé l'hébreu très petit avec ma sœur. J'avais 12 ans, elle avait 10. Elle a suivi les cours du grand rabbin Shoshana, qui était l'aumônier à l'époque de Polytechnique, par exemple. Et puis, donc, depuis 5 ans, je suis délégué du Père Général de la Compagnie pour la Nation et le Judaïsme. J'ai traduit en français 2 livres de Daniel Boyarin, qui est un penseur juif orthodoxe de Californie, que ma mère avait presque fini avant sa mort, sa mémoire soit en bénédiction, en 2008, la traduction de son grand livre sur la partition du judéo-christianisme. Donc, ma sœur et moi, on a fini la traduction, après avoir quand même... vivre le deuil, et après j'ai traduit deux livres petits, et j'ai découvert que c'est, pour ceux qui sont un peu anglophones en littérature, c'est très, ça a l'air simple l'anglais, parce qu'on comprend tout, tu vois, mais mettre après en bon français, il faut refaire toutes les phrases, enfin bref, c'est pas simple, ça a l'air simple, mais c'est pas simple, sinon c'est du charabia, et voilà, donc c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Depuis 10 ans, j'ai un groupe jeunes juifs, jeunes chrétiens, on se réunit plusieurs fois par an, il y a quelques prêtres de Paris qui viennent, chez Bernard, Philippe Oiseau aussi, de Lorient. Et donc je suis prof à Paris et à Rome, donc j'ai été 6 ans la responsable des masters, donc c'est l'établissement d'un programme, les examens, tout ça. On a passé 3e cycle, comme j'ai dit sur Facebook, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de 4e cycle, donc normalement dans 6 ans j'aurai la paix. On va mettre en charge du programme de postdoctorat, vous me direz, mais bon, toujours quelque chose à faire. Voilà. Alors de fait j'ai fait ma thèse, et c'est très très important par rapport au sujet de ce soir, sur la rhétorique de Paul, l'argumentation de Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 3, et la lettre aux Corinthiens comme Galates fait partie des lettres. Alors il y a des choses, vous savez, dès qu'on est un peu dans un champ de science, vous savez ça, et ben doctoresse disputante, quoi. Les gens ne seront pas du même avis, alors en Bible pareil, mais il y a quand même des trucs un peu, bon, Corinthiens et Galates, c'est de Paul, là il n'y a pas débat, 99.999 des gens sont d'accord, donc ça fait partie de ce qu'on appelle les homologoumena, c'est-à-dire les lettres qui sont certainement de la main de cet homme que nous connaissons, qui se présente lui-même comme Paul, tout simplement, Paulos, et que Luc, 50 ans plus tard, nous dira qu'il s'appelait Saoul et qu'il venait de Tars, en Cilicie. Voilà, donc, je vais faire un certain nombre de remarques générales avant d'introduire un petit peu à ce passage que les grands, nous avons notre compagnon allemand parmi nous, voilà, il y a eu des grands débats à la fin du 19e siècle en Allemagne, entre Wilamowitz et Norden notamment. Nous sommes cernés. Bon. Moi je dis souvent, il y a plusieurs domaines de ceux que vous travaillez, de ceux que je travaille, où ce n'est pas le cas en sciences par exemple, en chimie, en mathématiques je pense, mais en tout cas pour les affaires littéraires, le grec, etc., il y a eu un niveau, si vous voulez, il y avait des gens qui avaient un niveau d'allemand, un niveau de grec, pardon, de connaissance de la langue grecque au tournant du siècle qui était assez extraordinaire. quand Bultmann fait sa thèse en 1908 sur le style de la prédication cynico-stoïque comparée à Paul, c'est une thèse de doctorat, 85 pages. Mais pour faire ces 85 pages, il a lu tout ce qu'on connaissait à l'époque en grec sur les textes cyniques et de la philosophie populaire, stoïque et cynique de l'époque, et en montrant les points communs stylistiques et les points communs théoriques entre les Paul et ces gens-là. Donc, il y avait un grand débat à l'époque, qui dure encore un petit peu. Paul écrit-il vraiment du beau grec, du bon grec ? Voilà, toute la question. On est dans la koiné, on est à une époque où on n'est plus à l'époque athénienne classique, avec le style atticiste classique. Mais justement, donc, entre Villamovitz et Norden, il y avait ce débat. Bon, un qui dit oui, bon, Paul, ouais, c'est quand même vite fait, mal fait, quoi. C'est pas mal, mais enfin, c'est quand même pas très, très, très bien écrit. L'autre qui dit ouais, 1 Corinthiens 13, quand même, c'est pas mal foutu. Il regarde de près, c'est quand même pas mal. Voilà, le nombre de figures, enfin, on n'écrit pas ça sur le coin d'une table en 5 minutes. Non, il faut des compétences rhétoriques, des compétences linguistiques d'un certain niveau. L'autre exemple que l'on donne, c'est Romains 8. Hein, qui nous séparera de l'amour du Christ ? À la fin de Romains 8, tout ça, très très bien construit. Voilà, donc premier point, Corinthiens appartient aux lettres que tous les critiques attribuent à Paul de Tarse. Donc, soit 6 ou 7 des 13 qui sont sous son nom dans le Nouveau Testament. En cours, je parle souvent de trajectoire paulinienne, une trajectoire paulinienne sur un certain nombre de décennies, ou des gens que l'on ne devrait pas appeler les disciples de Paul, parce qu'on n'est disciple que de Jésus-Christ, et Paul aurait refusé le terme disciple. Mais en tout cas, des fils spirituels de Paul ont prolongé, j'allais dire, son geste théologique, la vie de ses communautés, en élaborant un certain nombre de lettres qui ont adapté, transmis l'héritage paulinien à la deuxième et troisième génération chrétienne. Avec évidemment la grande question qui traverse l'Occident depuis la Réforme, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont été, l'auteur de la première, deuxième à Timothée, à Tite, fidèles ou infidèles à Paul ? Alors, Kaiserman en 1950, en Allemagne, bon, l'exégèse est très élevante, hein, faut savoir, encore, un peu moins depuis 30 ans, mais on parlait, alors, ces pas disciples de Paul étaient coupables d'avoir créé une affaire entre ce qu'on appelle le fru-catholicismus, c'est-à-dire le proto-catholicisme, notamment Luc. Donc, avait dilué le pur vin de l'évangile paulinien, qui était naturellement bien compris par Luther, dans une affaire proto-catholique. Alors évidemment, nous, comme catholiques, oui, Timothée, c'est pas mal. Luc aussi, d'ailleurs, enfin, bien. Ça fait partie du canon. Voilà, le point important, c'est que, voilà, Corinthiens, on est au début de la fusée. Alors, le fait que, d'ailleurs, ça a été écrit ou pas par Paul, est, comme vous le savez, théologiquement absolument sans importance, tout ça est canonique. Donc, c'est comme les versets de Jésus dans l'Évangile. Jésus a dit chaque verset du premier jusqu'au dernier des Évangiles. Après, au niveau de notre intelligence historienne, de notre intelligence humaine et croyante, c'est intéressant de se poser la question sur ce que Jésus a historiquement dit ou pas dit, mais ça ne change rien à la valeur, vous voyez ce que je veux dire, du théologique du verset. Est-ce qu'au petit déjeuner du 29 juin 29, après le petit déjeuner au bord du lac, Jésus a dit « Alors, faut que je vous dise un truc, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Prenez, notez. Hein. Bon, alors, on n'est pas obligé de croire ça, forcément. Bon, alors, est-ce que Paul a écrit la lettre à Timothée pas forcément, mais c'est pas grave. C'est l'esprit de Paul qui parle, de même que c'est l'esprit de Jésus qui parle dans les évangiles. Alors, ça appartient à des lettres adressées à des communautés fondées par Paul. Car Paul, étonnamment, contrairement à ce qu'on dit dans tous les manuels, a écrit une lettre à une communauté qu'il n'a pas fondée, à savoir... Ah non, mais c'est le chaplain, c'est l'aumônier. La lettre aux Romains, qui est quand même légèrement la plus importante, quand même la plus longue, etc. Premièrement. Ce qui est en soi curieux, puisqu'il dit à la fin, « Je mets mon point d'honneur à n'annoncer que l'Évangile, que là où il n'a jamais été annoncé, c'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas été chez vous. » Et là, alors là, je veux une chambre pour aller en Espagne, en fait, 15 jours, hein. Et j'écris ce chapitre, il y a un petit écart, enfin, je vais à Lyon la semaine prochaine, je pourrais avoir une chambre pour deux jours, on n'écrit pas 50 pages. Quoi. Donc, ça c'est tout un statut, je ne rentre pas là-dessus, si vous avez des questions, c'est un problème qui me passionne, mais pourquoi Paul a écrit la lettre aux Romains, mais c'est bon. Alors Corinthiens, c'est une série unique, parce que, vous savez quand même, là je suis en terrain sûr, je pense qu'il y a 1 et 2 Corinthiens, et il y a 1 et 2, l'autre lettre où il y a 1 et 2, enfin, il y en a deux, là. Timothée et Thessaloniciens. Mais dans le cas de Timothée, normalement, à 95% des chercheurs pensent que c'est Paul. Et pour ce qui est de 1 et 2 Thessaloniciens, 1 Thessalonicien est de l'avis quasi quasi unanime de Paul. Et 2 Thessaloniciens, je dirais, on est sur du 85-15. Bon, vous avez toujours quelques évangéliques texans qui, bon, mais non, mais pour qui ? Vous voyez, le problème, c'est que le problème sur l'authenticité, c'est qu'on hérite d'une situation de pensée où, pour beaucoup, notamment dans le monde, enfin, c'était le monde catholique au début du XXe siècle, et le monde protestant un peu rigoureux, ben, c'est pas de Paul, c'est moins bien, quoi. Donc, on est en train de saper l'autorité. Ben non, c'est dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème, c'est inspiré par l'Esprit Saint, donc restons zen, quoi, dormons tranquillement. Mais du coup, ils vont tourner les arguments pour vraiment dire « mais ça pourrait quand même être de Paul ». Alors que, bon, très bien. Alors, le truc spécial, c'est ce qu'on appelle la correspondance corinthienne. Parce que de l'avis unanime, pour le coup unanime, 1 et 2 Corinthiens sont formés de bouts de différentes lettres. Où il nous manque évidemment les lettres des Corinthiens. Puisque vous m'avez écrit dans votre lettre qu'il est bon que l'homme ne soit pas avec la femme, je ne sais pas quoi, que, enfin, bref, l'homme ne se marie pas très bien. Alors je vais vous dire, là, bon. Donc on lui pose des questions et Paul répond. Et donc c'est tout le problème de ces fameux slogans des Corinthiens. Alors par exemple, si vous avez une Bible de Jérusalem, entre la dernière édition, celle qui est depuis 98-2000, et celle d'avant, dans la lettre aux Corinthiens, il y a un exégète dominicain, Murphy O'Connor, qui, j'allais dire à lui tout seul, avec le comité, a imposé de rajouter en 2 passages des guillemets. Et c'est devenu les slogans des Corinthiens. Donc, inversé, nous, on a des manuscrits où il n'y a pas de signe de ponctuation, comme vous savez. Donc, les pas de verset, tout ça, c'est venu au Moyen-Âge, on n'a pas de signe de ponctuation. Donc, encore moins de guillemets. Mais évidemment, vous mettez des guillemets, c'est vous dites, point. Voilà. Les aliments sont pour le ventre et tout ce qui sort va à la fosse des anses. Alors, qui dit ça ? C'est Paul ou c'est les Corinthiens ? Sur la question de l'interprétation, c'est capital. Qui dit quoi ? Donc, il y a une immense bagarre scientifique depuis quasiment, Père d'Église en a évoqué, mais au moins depuis l'époque scientifique de l'analyse du texte biblique, au moins depuis 2 siècles, sur, et c'est important par rapport à un Corinthien 13, c'est-à-dire comment est constitué un Corinthien ? Est-ce qu'on a une seule lettre dans laquelle on va essayer de repérer des ensembles ? Ou un bloc pourrait venir d'une lettre ou d'une autre lettre. Voilà. Donc, il y a plusieurs lettres, finalement regroupées au montage en 2, et elles font référence soit à des informations orales, soit à des lettres écrites par des Corinthiens favorables à Paul. Alors, il se trouve que Corinthe est une ville très importante, dans laquelle, certes, on va dire, le premier noyau évangélique, un certain nombre de gens ont été évangélisés par Paul, mais vous avez un peu en tête ce qui se passe au début de Corinthiens. Des gens disent « nous, nous sommes à, nous, nous appartenons à Apollos, nous appartenons à Képhas. » C'est qui Képhas ?
Pierre,
voilà, merci, rassuré. Donc Képhas, c'est très intéressant que Paul est l'unique, il emploie toujours le terme araméen, le terme donné par Jésus, le nom de mission, si vous voulez. Là où dans les évangiles, 30 ou 40 ans après, 50 ans après, on va écrire parfois Simon-Pierre ou...
Galate, je crois.
Galate, il dit Képhas aussi.
Non, je ne sais pas, je l'ai regardé.
Galate 2. Képhas. Et Apollos, Képhas, certains disent, nous sommes au Christ.
Et pas très bon. En 2-7.
En 2-7.
Ouais. C'est le seul endroit.
Seul endroit, oui, mais Pétrus. Encadré par du Képhas.
Ouais, exactement. Mais je pense que c'est pas pour rien qu'il dit Pétrus à ce moment-là.
Voilà. Ce qui est la traduction, en fait, de même que Christos est la transcription de Mashiach, de Messie, hein, Pétros reprend Képhas. Képha, d'ailleurs, apparemment en araméen, Képha, sans le S. Donc là, c'est dans la transcription de l'araméen en grec, on a mis un S, mais on devrait dire Képha en araméen. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on perd quelque chose quand on passe à pierre en grec et en français, parce que la pierre n'est pas le roc. Une pierre peut être quelque chose d'assez petit et mobile. Le roc, le rocher, c'est quelque chose d'énorme et d'immobile. On n'est pas tout à fait sur les mêmes, vous voyez la différence. Et le point surtout capital, c'est que dans l'Ancien Testament, qui est le roc ou le rocher ?
Dieu.
Dieu. Donc c'est un nom divin, en fait. Donc, c'est un point qui me travaille depuis des années. Comment se fait-il que Jésus donne à Simon un nom divin ? Bon. donc un fils de l'homme qui donne à des fils des hommes des noms de fils de Dieu, si je puis dire, des noms de Dieu. Deuxième point que j'avais prévu, bon, cette lettre déploie les compétences rhétoriques et théologiques de Paul. Alors, qui est Paul ? Paul, vous le savez, est un juif de religion, de formation religieuse pharisienne, il le dit lui-même aux Philippiens, de langue grecque, bien qu'il connaisse certainement l'hébreu, probablement l'araméen, puisqu'il a étudié à Jérusalem. Bon, qu'il ait étudié à Jérusalem, c'est une info qui nous est donnée par Luc, pas pourquoi Luc blufferait sur ce point, et de langue grecque, donc, et de culture hellénistique, donc cette fameuse culture, cette symbiose culturelle judéo-hellénistique qui existait depuis maintenant 2-3 siècles, très populaire en Égypte, en Syrie, Chypre, avec des communautés juives, donc, comme celle d'Alexandrie, qui donna Philon d'Alexandrie, donc où il y avait, comme on a parlé avant-guerre en Allemagne de la synthèse judéo-allemande, là on avait une synthèse judéo-hellénistique, où des gens, c'est un point que j'ai beaucoup bougé dans ma thèse, j'ai pas dit exactement ça, c'est toujours un problème quand on travaille un truc, c'est qu'il faudrait réécrire le titre de sa thèse, réécrire sa thèse en fait, au bout d'un moment pour dire non mais en fait, non mais c'est pas exactement bien dit ça. Donc à l'époque j'ai présenté Paul comme un homme biculturel, parce que j'étais victime de Judaism Hellenism Divide, de Judaism Hellenism Dichotomy, c'est-à-dire cette opposition qu'on fait spontanément entre judaïsme et hellénisme. On imagine qu'il y avait d'un côté voilà, des juifs un peu baroques, un peu métissés, là, qui étaient en Égypte, ils s'habillaient de manière bizarre, et puis il y avait les vrais juifs, quoi, enfin, qui étaient en terre d'Israël, qui parlaient araméen, étaient vraiment les vrais, quoi. Bon. Ben non, jamais Paul n'est attaqué là-dessus, il ne sera jamais attaqué là-dessus, ni par les pharisiens, ni par les juifs chrétiens. Il y avait plus de 3,5 millions de juifs de langue grecque qui avaient développé une culture théologique extrêmement forte, qui attirait énormément de convertis, donc ces fameux prosélytes craignant Dieu dans les synagogues. Pourquoi Paul continue à aller dans les synagogues pour parler ? Parce que c'est là qu'on rencontre des païens sympathisants du judaïsme, soit qu'ils aient été officiellement convertis, soit qu'ils soient simplement sympathisants. Je prends un terme qu'on employait quand j'étais en Afrique, sympathisants. Il y a des gens dans les églises qui sont baptisés, mais ils viennent à la messe catholique tous les dimanches. Ils, voilà. Leurs enfants vont au catéchisme, mais eux, ils n'ont pas forcément fait le pas de la conversion formelle. Et du coup, il dispose de ce patrimoine qui avait atteint quand même un degré de précision, j'allais dire de scientificité extrême, nous vivons encore d'une certaine manière là-dessus, de la rhétorique grecque. Alors, on connaît les traités d'Aristote, voilà. Donc les trois genres littéraires, hein, le genre judiciaire, le genre politique, délibératif, et le genre de l'éloge, qui est celui d'un Corinthiens 13, le genre de l'encomium, ou le genre épidictique, c'est-à-dire éloge de la ville de Rome, voilà, éloge des Athéniens, éloge de la vertu de Constance, éloge de etc. Et on a, les Grecs avaient développé tout un ensemble de toute une technicité des termes et des figures de style et des figures de parole pour habiller son propos. Alors, au départ, comme vous savez, c'est né dans le contexte de l'Assemblée démocratique du peuple. Devons-nous envoyer des ambassadeurs pour négocier avec les Perses, ou pouvons-nous affronter les Perses qui viennent nous affronter avec 300 000 hommes, pouvons-nous les affronter avec 100 000 oui, mais nous avons la flotte, etc. Bon. Donc, il faut argumenter, comme le faisaient les grands politiciens athéniens, au procès, évidemment, c'est des procès, ce sont souvent des procès d'héritage, hein. Un fils demande à son père l'héritage, vous avez un fils dissolu, un fils pas dissolu, ça doit vous rappeler des choses. Donc là, on a beaucoup de procès, un procès sur deux, c'est sur des affaires aussi d'héritage. Et donc, voilà, deux choses que je dis souvent. Il y a d'abord trois registres, hein, ethos, logos, pathos, que Paul maîtrise à la perfection. C'est-à-dire que d'une part, logos, on va s'intéresser, c'est les sections dites, qu'on appelait traditionnellement jusqu'à une époque récente les sections dites argumentatives. Donc il est écrit, alors en effet, donc c'est les sections qu'on lit le dimanche à la messe, et les gens ne comprennent pas parce qu'on n'a pas le début, pas la fin. Donc, voilà, Paul, c'est compliqué, ce qu'il a dit avant. Bon. Alors on a des bouts de raisonnement très denses, hein, Galates, Romains, c'est très très dense. Et, voilà. Les sections pathétiques en pathos, on les a peu le dimanche, c'est dommage, parce qu'on a tout le cœur de Paul, vous mes petits enfants, que j'aimerais tant trouver mes voies, j'aimerais être près de vous, vous que j'aime comme une mère, vous pouvez avoir 10 000 pédagogues dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, et je serai prêt à donner ma vie pour vous, et chaque soir dans mes prières, je pense à vous, un côté pathétique, bon. Donc là, c'est qui insiste sur le lien affectif du récepteur et de l'émetteur, et puis vous avez l'éthos, la dimension éthique, qui est cette section de Galates 2, c'est-à-dire Il y a 15 ans, je suis monté à Jérusalem, j'ai vu Képhas, Jacques et Jean, j'ai dit cela, etc. Quiconque dit le contraire est un menteur. Moi, j'étais là, il y a des témoins. Donc, narratio, hein, c'est la côté éthique, Paul dit non, je n'ai pas changé. Ce que je dis maintenant, je le disais avant, il y a des témoins pour ça. Donc, il établit sa crédibilité, évidemment, d'orateur, de chrétien, de théologien, en disant si des gens disent autrement, c'est eux qui ont bougé, pas moi. Donc ça c'est les trois registres. Donc il s'agit de voir les Grecs avaient une organisation du discours propre à chacun de ces trois genres. Par exemple, évidemment dans la dimension du récit du passé, de la narratio, dans le genre judiciaire est très important. Mon client, mais il n'était pas à Athènes ce jour-là. Comment voulez-vous qu'il ait assassiné son oncle? Il était sur l'île de Corfou. J'ai trois témoins qui vont expliquer. D'ailleurs, donc le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Délibération politique, que faut-il faire? Faut-il se faire circoncire, oui ou non? Ophélène, est-ce utile, oui ou non? Donc, la fin de Galates, c'est une question de délibération pour le futur. Et puis, l'épidictique, c'est l'éloge. Ce qu'on a là, c'est... Donc, ça, c'est un genre plus large, plus fourre-tout, qui couvre l'ensemble des autres catégories, et qui, à l'époque de Paul, commence à prendre une ampleur de plus en plus grande, puisque la République romaine se transforme dans un empire de plus en plus autocratique, donc la dimension démocratique est en train de disparaître, toute allusion avec notre situation présente existante, et le genre délibératif est également menacé, pour d'autres raisons. Donc, va se développer un style... Il y en a qui font du grec ici, ou qui ont quelques connaissances de grec. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le genre asianique, c'est-à-dire le genre de la province d'Asie, ce qui est le grec de Éphésiens, Colossiens et en partie des Trito-Poliniennes, c'est-à-dire un grec avec des phrases beaucoup plus longues, des périodes beaucoup plus longues, des verbes avec plusieurs prépositions, plus chargés, ce qu'on appelle le style asianique, plus ampoulé. Alors qu'évidemment, à Athènes, on l'a jugé comme un style un peu décadent. Donc il y a cette évolution du grec que normalement Paul évite. Donc Paul a une... On voit bien que Paul essaye de viser un niveau de grec qui est à la fois, recherché, en fait, rhétoriquement, extrêmement bien conçu, mais qui ne veut pas non plus se prétendre. Hein. Lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas usé les discours persuasifs de la sagesse, début de Corinthiens. Voilà. Donc on se heurte à ce paradoxe profond de Paul et qui renvoie à l'homélie que nous avons entendue aujourd'hui sur l'évangélisation. C'est-à-dire, nous, Paul dit, mais voilà, comme croyant, comme théologien, on doit faire tout ce qui est en nos pouvoirs, mobiliser toutes nos ressources rhétoriques et intellectuelles pour convaincre, sachant qu'en définitive, c'est Dieu qui donne la foi. C'est-à-dire, sachant qu'en définitive, c'est pas mes efforts qui vont faire que la foi va naître dans le cœur de quelqu'un. Alors, ce que je trouve fascinant, c'est que Paul, il avait découvert, et puis c'est le don qu'il a reçu de Dieu, c'est que son génie, son charisme, c'était de faire naître la foi dans le cœur des auditeurs. Alors, Hans-Dieter Betz, en 77, un Allemand qui est parti aux États-Unis, et un certain courant protestant a dit, par exemple, mais Paul, il néglige les sacrements, il néglige le baptême. Ça paraît un peu dur de dire ça quand on connaît Romains 6-8, mais de fait, Paul dit, j'ai baptisé personne. Enfin, oui, alors si Stéphanas, bon, sous-entendu, je parle de la personne qui baptisait était malade, je l'ai remplacé, bon, enfin, j'ai baptisé personne parmi vous. Il ne faisait pas la catéchèse, j'allais dire catéchuménale. Ce qui intéressait Paul, c'est le premier moment, comme il dit à Philémon, ou le moment, voilà. Tu n'étais pas croyant, tu es devenu croyant. Tu n'as qu'un seul père, c'est moi. Alors, on peut dire, tu n'as qu'un seul père, c'est Dieu. Il faut être gonflé quand même pour dire... C'est bon. C'est-à-dire, il est celui par qui l'Esprit Saint fait naître la foi dans le cœur de quelqu'un. Et ça, il était très conscient de ce charisme et de cette responsabilité. Et après, bon, bah, tu iras voir Xavier là, pour la catéchèse, hein, il t'expliquera. Hein, la Fidesquée, voilà ça. Ça. Mais c'est ça. Et le point qui intéressait Paul, c'est la Fidesquée. Tu mets ta confiance en Dieu, puis c'est bon. Voilà. Et ça, c'est comme ça. Le côté où les évangéliques en présence, c'est comme ça. Après, va étudier, comme dirait Hélène. Maintenant, apprends. Donc, il utilise Paul au moment même où, dans ses lettres, et nous le voyons bien, il mobilise une compétence rhétorique extrêmement sophistiquée, d'un très très bon niveau. Il dit, il emploie des paradoxes et dit, mais c'est moi j'ai une parole pauvre et ne soyez pas convaincus par la beauté de mes arguments. Voilà. Il y a une très très belle. Il emploie une figure qu'on appelle la correctio. Hein, c'est une figure rhétorique. La correctio, quand vous dites, vous faites semblant de vous corriger. Vous faites une affirmation un peu forte. Hein, je sais pas, l'Allemagne qui dirige aujourd'hui l'Europe, je veux dire qui est le centre vivant de l'Europe. La correction vise à décaler et à faire que... Ça va, je suis un grand fan d'Angela. Vous voyez, il y a un écart avec l'entendu. Alors, il y a, toujours pour envoyer à l'homélie de notre ami, il y a une correction absolument sublime dans Galates 4 quand il dit « Vous qui avez connu Dieu, ou plutôt, correction, et, qui avez été connu par lui. » C'est-à-dire qu'au moment même où il insiste au moment actif de « vous avez mis votre foi en Dieu, vous avez reconnu Dieu, vous avez mis votre foi en Dieu, etc. » Le mouvement actif, ou plutôt, reconnaissez que vous avez été choisi par lui. C'est-à-dire que le mouvement du croyant, comme on voit dans l'Évangile, c'est « ta foi t'a sauvé ». Alors la personne va dire « moi j'ai mis ma foi en Dieu », oui, mais c'est ta foi. Les deux, toujours. Alors, 1 Corinthiens 13, c'est un passage extraordinaire pour juger de la taxis et de la lexis. La taxis, c'est ce que les latins appellent la dispositio, c'est-à-dire que les lettres de Paul sont construites, les arguments sont disposés d'une certaine manière. C'est la tâche principale. L'orateur, il commence, voilà, il y a l'inventio, comme vous savez. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je veux le dire? Bon. Ensuite, je vais choisir mes arguments. Je vois qu'il y en a qui ont fait de la rhétorique. Je vais organiser par quel argument je commence. Alors, Abraham, père des croyants, j'ai trouvé un cas, très bien. Ça, c'est, vous voyez, comme vous, on fait un plan de dissert. J'ai mon plan, voilà, donc, exordium, premium, introduction. À la fin, peroratio, peroraison. Ensuite, je structure ma probatio. Grec disait les pistes, c'est-à-dire les preuves. Donc, preuve par les faits, preuve technique, preuve non technique, ça, on est au tribunal. Je structure mes pistes, tout ça est très bien expliqué par Aristote. Je fais d'abord, alors je vais dire probatio de ma thèse, réfutatio de l'opposition. Saint Paul le fait aussi très bien, Galate. Ils disent que la circoncision, ça suffit. Ah, mais ils ont pas du tout. La circoncision, c'est que le début. Hein. Il y a 613 commandements derrière. Et si tu en fais qu'un, ça ne va servir à rien. Ah, attendez. Donc, réfutatio d'un des arguments. Non, non, mais. La circoncision, c'est le portail, c'est l'entrée, c'est marqué. C'est, bam, il faut faire ça, là, t'es dedans. Ben, il dit, oui, la circoncision, oui, c'est utile, mais si tu ne pratiques pas les autres, ben, ça, non, ça ne suffit pas. Donc, réfutatio. Donc, ça, vous construisez, ça, c'est la taxis, c'est-à-dire comment vous pensez vos arguments. Alors, vous avez des arguments forts et des arguments faibles. La grande question des orateurs, encore aujourd'hui des avocats, dans ma plaidoirie, c'est comment je structure. Je commence par le plus fort, je finis par le plus fort. Qu'est-ce que je mets au milieu? Alors, j'ai 5 arguments, j'en ai 2 forts, 3 faibles. Comment je fais? Et ça, c'est une question tout à fait technique. Alors, par moment, si vous voulez un exemple de plantage assez magistral de Paul, c'est 1 Corinthiens 11, sur les cheveux des femmes. Bon, là, faut reconnaître, bon, on ne va pas lui faire l'audace de le lire, mais c'est sûr que... Puis à la fin, il dit, bon, alors, d'ailleurs, que personne ne discute, parce que c'est comme ça. Bon. Donc, ce qui est un petit peu l'argument d'autorité, quand même, un peu... Ne voyez-vous pas quand même que la nature nous enseigne qu'il est complètement inconvenant pour une femme d'avoir les cheveux courts? Enfin, c'est évident, mince. Bon. Oui, bon, déjà la nature, c'est pas un argument très évangélique, Aristote, c'est pas inconvenable. Bon. Donc on voit bien que la Paul, puis d'abord, bon, Adam était créé premier, pas Ève, oui, enfin bon, à la fin il dit, bon, enfin tout homme n'est qu'une femme quand même. La femme vient de l'homme, enfin tout homme n'est qu'une femme. Oui, tout vient de Dieu, bon, alors d'accord. C'est le serpent, ce point, bon, voilà, la poule et l'œuf, bon, enfin, très bien. Donc, il voit bien, là, il emploie des arguments, et puis chaque fois qu'il emploie un argument, il voit que ça marche pas, et puis à la fin, il dit, bon, ben, c'est comme ça. Alors, 1 Corinthiens 13, c'est situé, pour se rapprocher du sujet. Donc, la taxis, en fait, ça va être la section, alors je pourrais vous l'envoyer. Dans 1 Corinthiens, il y a un certain nombre d'ensembles. Alors, effectivement, on a du mal à avoir la disposition globale de 1 Corinthiens parce que de l'avis quasi unanime, nous avons des groupes de lettres où des pérorations ont été coupées. Donc, cela dit, tout le monde est à peu près d'accord que la section 1 Corinthiens 12-14, les chapitres 12-13-14, sur la question des charismes, etc., c'est une unité argumentative. Après, et je vais revenir le pourquoi il met le 13 entre le 12 et le 14. Donc après, il y a la lexis. La lexis, donc c'est la troisième étape de l'orateur grec, une fois qu'il a construit son argumentation, c'est le choix des figures de style, le choix des mots. Et là, par exemple, il y a tout un débat pour savoir, sommes-nous dans le registre poétique? Qu'est-ce que la poésie au temps des Grecs? Alors nous, ben, la poésie, c'est en vers, ben, pas toujours, mais en prose. Qu'est-ce que la poésie? C'est du rythme, c'est de la métrique, c'est du verset, c'est l'emploi de certains termes, c'est un rythme. Bon, il y a eu un débat, un congrès de l'ACFEB sur les hymnes du Nouveau Testament il y a une dizaine d'années. Il y a eu des débats assez rudes et assez confus quand même, pour montrer que le problème est vraiment complexe. Il est complexe chez Paul, mais pas que, chez d'autres auteurs. Bon, parfois dans nos Bibles, de fait, ce chapitre va être mis, comme il est dans certains, passages du livre d'Isaïe, etc. Vous savez, on met une typographie particulière pour signaler « attention, poésie ». On est de l'italique, on décale de la ligne, parce que les experts ont dit que c'est de la poésie. Bon, enfin, qu'est-ce qu'était la poésie sous le roi Josias il y a 2800 ans? On n'est pas non plus hyper à l'aise. Le point qui est certain au niveau de l'alexis, c'est le choix des figures. Donc la liste que je vous ai donnée, c'est-à-dire que donc je vous ai donné un peu une disposition du chapitre qui met en valeur en fait les effets de l'alexis, les effets proprement, si vous voulez, littéraires et d'efficacité rhétorique. Il ne faut pas oublier aussi que c'était des lettres qui étaient surtout destinées à être lues à haute voix, car à l'époque, pas lues avec les yeux. Elles sont portées par un messager. Il n'y a pas vraiment des postes, si il y a la poste impériale, mais enfin, il faut être à tuer à toi avec l'empereur, ce n'est pas forcément le cas de Paul. Donc, à part les courriers impériaux, vous fonctionnez par des messages comme aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire que, tiens, tu as un oncle qui va à Paris la semaine prochaine, il vaut mieux passer par l'oncle qui prend l'avion la semaine prochaine que mettre sa lettre dans la boîte à Kinshasa ou à Yaoundé. Là, vous ne maîtrisez plus trop les affaires. Voilà, donc le porteur de la lettre, vous écouterez Chloé, alors parfois ça peut être une femme justement, comme Phébé avec Romain. Normalement la porteuse de la lettre, elle est aussi celle qui est en mesure d'expliquer, de la lire et de commenter, de l'expliquer. Alors, je veux juste revenir un peu pourquoi c'est un sommet à Corinthiens 13. Parce que, autant voilà, Paul a cette grande compétence rhétorique, autant c'est un homme d'un point de vue... comme écrivain qui a relativement peu d'imagination. C'est-à-dire qu'il emploie des métaphores qui sont les métaphores les plus connues du temps. Par exemple, quand il compare la vie spirituelle à l'entraînement des sportifs, il se trouve qu'à Corinthe, il y a les jeux ismiques, c'est les quatre grands jeux chez les Grecs, les jeux panhelléniques, les jeux olympiques, les jeux ismiques, et qui avaient eu lieu, je ne sais plus maintenant, un an ou deux avant son passage. Donc tout le monde connaît les jeux ismiques à Corinthe. Et comparer un peu la vie spirituelle, la vie d'un étudiant, à la préparation des athlètes, c'est vraiment, on fait ça en première. Enfin, je veux dire, c'est un truc que tout le monde connaît. Ça, 10 000 fois. Donc, la plupart des... le membre, vous êtes différents et vous ne faites qu'un seul corps, nous sommes tous les bons. Ça, c'est l'apologue de Menenius Agrippa, depuis la République romaine et jusqu'aux Grecs, c'est un des topos de la vie politique les plus banals qu'on puisse imaginer. Donc on compare la vie sociale, c'est un argument de Menenius Agrippa à la plèbe, en disant, bon, ben, si vous ne travaillez pas, ok, vous allez affamer les patriciens, mais vous allez aussi avoir des problèmes. Bon, nous, société romaine, nous, société athénienne, nous sommes un corps, et chacun a son rôle. C'est un argument assez conservateur, de fond, cette métaphore, tout ça pour dire que ce n'est pas une invention de Paul. On n'a quasiment aucune métaphore paulinienne dont on peut dire elle est très originale. Mais c'est en partie sa force. C'est que Paul, il écrit avec des exemples, des métaphores que tout le monde va comprendre. C'est pas des propos... c'est un peu comme le pape actuel. C'est vrai qu'il emploie des formules simples quand il parle des grands-parents, quand il parle... Il emploie des métaphores populaires qu'il a utilisées en Argentine, qui sont très pastorales, très simples, que tout le monde comprend. C'est pas des propos... Voilà. Donc, au plan éthique, par exemple, dans les parties éthiques de ces lettres, donc en général, qui sont à la fin, qui sont la troisième partie, qui est la partie vraiment originale par rapport à des lettres de l'Antiquité, mais qu'on retrouve dans les lettres juives et dans les prédications juives du temps. Donc l'axiome que nos frères luthériens nous ont transmis, chez Paul, l'indicatif du salut fonde l'impératif de l'agir, c'est-à-dire « vous avez été sauvés par le Christ, donc comportez-vous bien ». C'est ça qui structure ces lettres. Vous avez été baptisés, vous avez été sauvés en Christ, Romains 5, 8. Donc, Romains 12, 15. Donc, pardonnez-vous les uns les autres, etc. etc. Et là, Paul utilise des expressions, les listes de vices et de vertus, par exemple. Jalousie, rivalité, disons. Ben ça, on trouve ça chez plein d'auteurs de la philosophie populaire de l'époque. S'enorgueillir de travailler de ses mains, être joyeux tout en étant socialement méprisé, tout ça, c'est des propos des maîtres de l'époque. Ce qui caractérise Paul, c'est que tous ces thèmes classiques de la culture hellénistique, il va les mettre en relation avec le Messie, avec le Christ. Alors, mein Dr. Vater, Jean-Noël Aletti, a forgé le terme un peu barbare en français de christologisation, de Jésus-christologisation, c'est-à-dire que, c'est un peu barbare, mais on comprend ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que, en fait, le génie ou la spécificité de Paul, c'est cette espèce de polarisation fondamentale sur le Christ. De même d'ailleurs que le discours théologique se concentre sur le Christ, qui est Dieu, c'est le Père du Messie, c'est le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, de même qu'au niveau théologique, vous avez une concentration sur le Messie, de même au niveau de tout le reste, de l'éthique, etc. Qu'est-ce que c'est fondamentalement la vie de Paul chrétien? C'est imiter le Christ. Avec la phrase clé, imitez-moi, frère, comme moi-même, j'imite le Christ. Comme je dis souvent en passant, il faut pouvoir le dire, imitez-moi. Si on pouvait tous dire, imitez-moi, l'Église se porterait mieux. Petit écart, quelques écarts, grand écart. Paul, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il dit. Il peut dire ça sans rougir. Et je traite durement mon corps, etc., un Corinthiens 9, c'est-à-dire je ne prétends pas être arrivé et je suis exigeant avec moi-même comme je suis exigeant avec les autres, ne croyez pas, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, le Christ devient le pôle unique qui qualifie l'ensemble de ses pratiques. C'est lui l'exemplum suprême, hein, ça c'est aussi une figure, l'exemple, c'est une figure de la rhétorique. Paul prend régulièrement l'exemple du Christ. Philippiens 2, ayez les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Et puis vous avez ce fameux passage dit hymnique, d'ailleurs, le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang inégalé à Dieu, etc. Donc on prend cet exemple fondamental de l'incarnation de la kénose du Christ pour le donner comme exemplum hein, aux fidèles de la communauté. C'est ça que vous devez vivre. Voilà. Alors, 1 Corinthiens 13 se trouve dans un ensemble formé des chapitres 12 à 14. La question qui est débattue, en réalité, n'est plus d'une très grande actualité dans l'Église catholique. Une question plus vivante dans des églises pentecôtistes, 4e génération, même si certains aimeraient qu'elles soient un peu plus présentes dans l'Église. Paul doit répondre à la question. Le parler en langue, la glossolalie, est-il le charisme le plus important? Il y a des gens qui ont la glossolalie et puis qui s'y croient un peu. Donc Paul a une question très précise et va donner sa réponse. La question qui pour nous est intéressante, rhétoriquement et théologiquement, c'est pourquoi un tel détour? Pourquoi ce chapitre entier avant de donner sa réponse? Et là c'est intéressant pour qui fait de la philosophie ou même qui est en psychologie, hein, quand vous lisez un peu dessus. Qu'est-ce qui fait que vous faites bouger les gens? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a un gros problème, vous le savez, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire pour qu'il bouge? Non, mais attends, il faut que tu arrêtes de boire. Non, mais je sais, non, mais voilà, ben, oui, il faut que tu arrêtes de boire. Ben, ok, il a entendu, puis il ne va rien se passer. Donc, comment favoriser un changement? Et pour Paul, c'est un changement communautaire, c'est un changement d'éthos fondamental de l'état d'esprit de la communauté de Corinthe. En gros, il reçoit des lettres, on lui dit tout le monde se dispute, des jalousies, des rivalités, ceux qui ont ceci critiquent ceux qui ont cela, ceux qui ont charisme de docteur critiquent ceux qui ont charisme de la glossolalie, ceux qui sont d'Apollos, machin, il dit non, attendez, non, vous n'avez rien compris là. C'est un gros problème. Bon, donc, il va devoir trouver des arguments et des moyens pour faire bouger les gens. Et un peu comme Jésus faisait des paraboles, Paul il ne fait pas de paraboles, mais là il fait un encomium, voilà, il fait cet éloge. Il va falloir revenir quand même sur ce mot charité-amour, parce que c'est quand même au cœur du truc, mais il fait cet éloge de l'agapé, en réalité, pour faire bouger que, quelque part, les Corinthiens, ils oublient la question. Ou plutôt qu'ils vont revenir à la réponse en comprenant que, bon, mais non, mais là, on est là à pinailler, est-ce que c'est avoir eu 12 ou 13 qui est important dans les devoirs? Mais attends, mais allô, j'écoute, quoi. C'est pas le problème. Donc, il va déplacer, il va faire un voyage dans le système de valeurs, un voyage dans notre imaginaire théologique. Voilà, en gros, comme disait le pape dans le truc sur la sainteté, il faut que la sainteté soit attractive. Les vrais saints, c'est les gens. Mais les gens vous imaginez les gens qui ont connu Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, vous changez de vie, quoi. Il y a ce mec, vous changez de vie, quoi. C'est-à-dire que votre imagination, la manière dont vous pensez votre vie, paf! Ça change. Donc Paul, avec une lettre qui va être lue, il veut faire cette opération. C'est-à-dire qu'il veut qu'à Corinthe, les gens disent « Non, mais on est cons quand même. Mais on est là à se boutiner sur une affaire de queue de cerise. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc, il va répondre, « Je souhaiterais que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez, car prophétiser vaut mieux que parler en langue. » Corinthiens 14, 5, il va donner sa réponse. Il a un avis sur la réponse. Et cet avis, aujourd'hui, il est un peu décalé. Qui sont les prophètes dans l'Église catholique aujourd'hui? Qui sont les glossolales? En paroisse ordinaire, les gens disent, ah bon, qui quoi, glosso quoi? Je veux dire, le problème, il est étroitement lié aux conditions de vie. Alors, c'est une question qu'on peut se poser, c'est une question que nos frères charismatiques, depuis que l'Esprit-Saint est rentré dans l'Église catholique à Ann Arbor, Michigan, en 1968, vous savez, que nos frères charismatiques posent. Comment nous vivons les charismes dont parle Paul, qui se sont perdus dans les églises historiques et qui reviennent depuis 100 ans dans des communautés qui sont des communautés dans le plus fort essor du christianisme au plan mondial, ils sont déjà 500 millions, et ils dépasseront l'Église catholique dans 10 ans. Donc, c'est voilà. Donc, comment nous entendons ça. Alors, il se trouve que la semaine dernière, on avait un colloque biblique qui était organisé par une Italienne chercheuse au CNRS, Alessandra Pozzo, que je connais depuis 20 ans, qui a fait sa thèse de doctorat, Université d'État en France, sur la glossolalie, à travers les âges, dans les différentes cultures, Moyen-Âge, etc. Donc la glossolalie, vous voyez ce que c'est, la glossolalie, c'est le fait de énoncer, faire des sons qui donnent l'impression de correspondre à quelque chose de type linguistique, à une langue précise, mais qui n'en sont pas une, et qui ont besoin d'être interprétés. Donc c'est très différent de la xénoglossie. Et là, vous avez un coup de force théologique absolument capital, si on veut, proto-catholique, si on veut, effectué par Luc à la Pentecôte, où Luc, si on l'interroge, on va dire, mais Luc, enfin, tu sais bien que les premiers chrétiens, c'était de la glossolalie, pourquoi tu en fais de la xénoglossie? Chacun les entendait dans sa langue maternelle, ento, dialect, idio, dialecton, part, arabe, mèdes et élamite. Bon. Donc, Luc réécrit la Pentecôte pour qu'on comprenne que ce n'est pas de la glossolalie, mais de la xénoglossie. Et tout le reste du livre des Actes des Apôtres, c'est, il parlait en grec, c'est juste un mot de différence. Il y a l'alein glossais ou l'alein en glossais, parler en langue, qui est encore le langage évidemment de nos frères charismatiques, ou le parler des langues. Vous parlez des langues étrangères, oui, je parle allemand, russe, très bien. Parler en langue, ah non, ça je ne sais pas faire. Bon, vous voyez, c'est un petit mot, deux mots. Tout le reste des Actes, c'est parler en langue. Centurion, Corneille, la Pentecôte des Samaritains, la Pentecôte d'Éphèse. Ils se mirent à prophétiser, à parler en langue. Les deux charismes d'un Corinthien. Alors, pourquoi Luc fait ça? Si, alors, option A, vous êtes un tantinet un peu traditionnel, enfin, vous êtes plutôt genre 1890, au niveau exégèse, donc vous dites, ben, la Pentecôte, c'était de la xénoglossie. D'ailleurs, Luc nous le dit, ben, parce que c'est vrai. Et puis, Paul n'était pas au courant, c'est pas grave. Mais, bon, Luc, il écrit vers 95, on est la troisième génération chrétienne. Moi, je suis plutôt du courant majoritaire, pas besoin d'être allemand pour voir ça, qui est, Luc, inspiré par l'Esprit-Saint, fait une correction de type proto-catholique, c'est dit, attendez, mais l'important, c'est l'intelligibilité et la crédibilité. C'est-à-dire, il est important que des gens dans l'Église s'intéressent, ce qu'on appelle la théologie fondamentale, à la condition de crédibilité de la foi. Et donc, ça s'exprime par un langage précis, articulé, argumenté. Oui, je sais qu'il y a la glossolalie. Je n'y pas. Comme dit Paul d'ailleurs lui-même, moi je l'ai aussi le don de glossolalie. C'est pas un problème. Plus que les autres. Mais mieux vaut dire 5 paroles intelligibles que 10 000 en langue. Et c'est ce qu'il entend ici par prophétiser. Parce que l'homme ou la femme, puisque évidemment, comme vous savez, ça va être un des points majeurs du débat après, les femmes prophétesses à Corinthe, donc c'est pas genré comme charisme. L'homme ou la femme qui a le charisme de prophétie va énoncer une parole intelligible, linguistiquement, qui parfois va demander une interprétation, qui va être fournie par elle ou par quelqu'un d'autre. Mais la glossolalie, elle ne s'interprète pas. T'es très content, c'est l'esprit qui est en toi, qui dit loulalilala, et c'est très bien, c'est très très bien. Il n'y a pas de problème, je sais faire aussi. J'ai reçu aussi, il n'y a pas de problème. Mais... bon, au bout d'un moment, quoi, 10 000 comme ça, c'est bien, mais voilà, c'est pas forcément ça qui va construire. Pourquoi c'est intéressant? Vous voyez, mais là, il y a leur sujet, là, qui en vient à Corinthiens 13. Le problème, c'est que 12, il énonce le problème, tous dans l'Église ont des charismes différents, et la question, c'est la rivalité des charismes dans la communauté, ça on a bien compris depuis le début de la lettre. Donc, voilà, docteur, prophète, vous parlez en langue, etc. Et 1 Corinthiens 14, il donne la réponse. Et comme dit Alétine, pourquoi le chapitre 13 moi, argumentativement, je résume en une phrase. Hein. La charité, c'est vachement important. Le plus important, c'est la charité. C'est bon, 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ce poème, enfin ce texte, de, je veux dire, mais d'une sophistication, etc. Où on est, c'est la fameuse question, ceux qui ont l'histoire de l'art, on est parti, le sublime, c'est-à-dire, on part au sublime, c'est-à-dire qu'il est en train de nous. Il décolle, il nous déplace, il nous. Et donc, on ne va pas être dans le même état d'esprit quand on va entendre 1 Corinthiens 14, normalement. Il y a une forte analogie avec la technique parabolique de Jésus, qui déplace ses auditeurs. J'ai été très frappé samedi dernier par la conférence de Camille Faucan, c'est un exégète belge très connu qui vient prendre sa retraite, spécialiste de l'évangile de Marc, auteur du dernier commentaire en français sur Marc, quand il a fait remarquer que les paraboles dans l'Ancien Testament, par exemple celle de Nathan, du prophète Nathan à David, ou de la femme de Tekoa à David, sont dites par des individus socialement faibles. La parabole, c'est une parole du faible au fort. Pourquoi ? Parce que, si vous êtes Nathan, vous allez retrouver le roi, là, vous allez trouver Louis XIV, en disant, non, mais Louis XIV, ça va pas du tout, là, avec ta maîtresse, la foire était tout de suite. Vous finissez à la Bastille. Hein. Et Jésus emploie une parole de faible socialement. Il est le fils de Dieu, il est envoyé de Dieu, il est le Messie. Il peut dire, bon, maintenant, les amis, fini de rire. Hein. Donc maintenant, à partir de maintenant, on mange pas de viande le vendredi, hein. Enfin, on donne ses ordres. Moi, je vous dis, ça. Mais le plus souvent, il parle en parabole. Le parler en parabole, c'est dit à l'auditeur, celui qui a des oreilles, qui l'entende. C'est une parole, et quelqu'un dit, voilà, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je n'impose pas le... Alors après, il va proposer des choses, mais... Quand vous êtes le roi, vous n'avez pas parlé en parabole. Le roi, il dit, c'est comme ça. Demain, les impôts, c'est 10% de plus pour tout le monde. Boum ! Moi, le roi. Et les protestataires, à l'Hérodium. Vous êtes le roi, vous n'avez pas parlé en parabole. Et donc Jésus parle en position humble. C'est assez impressionnant. Alors, donc Paul fait un long détour en faisant l'éloge de l'agapé. Alors là, on a un problème en français qui est quand même assez terrible. C'est qu'on aime le chocolat, notre petite sœur, Dieu, sa femme, son chien, ses enfants, ses amis, pareil. Un vrai problème, ça. On a le même verbe. On doit connaître qu'il y a un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai souvent offert à mes mariés, qui est Les Quatre Amours de Lewis. Je ne sais pas si vous avez lu Les Quatre Amours. Hein, c'est un magnifique livre. Si jamais vous n'avez pas lu, C.S. Lewis, qui est peut-être le plus grand apologète chrétien de langue anglaise du XXe siècle, l'auteur des Contes de Narnia. Et les Grecs ont un terme instauré pour l'amour entre parents et enfants. C'est très fort l'amour entre parents et enfants, mais ça n'a rien à voir avec l'amitié, ça n'a rien à voir non plus avec l'amour érotique. C'est très spécial, très fort, c'est d'une catégorie spéciale. Après, vous avez l'éros, on voit le concept, la philia, très très importante pour les Grecs, l'amitié. Et puis l'agapé, c'est une quatrième catégorie. Et c'est pour ça que c'est généralement pas fait lors des messes de mariage. Une fois sur trois, donc je vous donne un petit message. Ayez de l'imagination pour vos messes de mariage. Ne prenez pas nécessairement 1 Corinthiens 13 en première lecture et Matthieu 5 en évangile. Il y a d'autres textes dans la Bible. Très bien. Donc... Alors voilà, on dit l'amour, machin, prends patience, tout ça, et puis tout le monde verse une larme. C'est pas exactement ce que dit Paul. Parce qu'ici, quand il parle de l'agapé, il vise la même chose que dans Philippiens 2. C'est un amour kénotique, gratuit, de générosité, sur abondance. L'agapé, et les Grecs l'emploient assez peu, c'est un truc bizarre, c'est le Samaritain qui s'arrête au bord de la route, et le mec, il ne connaît pas. Voilà, il va soigner ce malade. C'est pas de la sorgue, c'est pas de l'éros, c'est pas de la philia. C'est quoi ? C'est de l'agapé. C'est-à-dire que c'est pas sentimental non plus, parce que le mot amour, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu aimeras tes ennemis, on les aime pas comme on aime sa mère, je suis désolé. Tu prendras soin. Si ton ennemi se blesse sur la route, si l'âme de ton ennemi tombe, tu vas t'en occuper. Est-ce que tu as des sentiments affectueux, gentils, romantiques à son égard ? Pas du tout. C'est aussi un problème qu'on a avec aimer vos ennemis. On n'aime pas ses ennemis, je suis désolé. Par contre, on est censé prier pour eux, être capable de, éventuellement, d'avoir cette générosité de les aider s'ils sont dans la mouise. C'est pas pareil. Parce que souvent, j'ai fait un peu d'apologétique avec les autres. Alors, vous avez un truc débile dans votre évangile, il y a marqué aimez vos ennemis, c'est nul, c'est con, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et on est là, mais non, mais ben, je t'explique. Ben voilà, ce problème, par exemple, ben, il faut d'abord dire, non, mais attends, c'est pas romantique, voilà, voilà ce que ça veut dire. Et voilà. Donc, l'objectif de Paul, il ne veut pas recourir à un argument d'autorité, comme ça les cheveux des femmes, chapitre 11, ça a plutôt mal fini, mais fonder théologiquement, et c'est là où je reviens, je fais boucle avec le début, christologiquement sa position. C'est-à-dire qu'il va prendre, une fois de plus, l'exemple du Christ. C'est l'unique paradigme, c'est l'unique exemple, c'est l'unique étalon, c'est l'unique mesure qu'on a pour mesurer le comportement humain. Hein ? Qu'est-ce qu'un homme ? C'est le Christ. Qui est l'homme nouveau ? Qui est l'homme selon le cœur de Dieu ? C'est quoi l'Adam nouveau ? C'est quoi la personne qui doit ressembler à ce que Dieu veut qu'on ressemble ? C'est Jésus. Donc bah, finalement, il n'y a pas besoin de faire des sections morales de catéchisme de 300 pages. Hein ? Je reviens à une discussion célèbre avec le cardinal von Schönborn, la section 3 du catéchisme de l'Église catholique. Ben, y a des gens qui disent, ben, on a expliqué le contenu de la foi, et, chapitre 3, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton prochain comme toi-même, maintenant va et étudie. Hein. Pourquoi il faut dire, il faut aller à la messe le dimanche, machin, premier commandement, etc. 300 pages, et puis le droit des États, et puis la peine de mort, et puis hein. Bon, ben, voilà. Et puis Schönborn, oui, mais enfin quand même, Thomas d'Aquin avait fait comme ça, c'est pas mal, enfin, on est habitué, c'est bien. Bon. Et puis, qui veut faire l'ange fait la bête, donc on va prendre les choses à la base. Hein. Mais alors, attendez, le décalogue, c'est chrétien. Non, en fait, c'est dans l'Ancien Testament. Ouais, non, c'est pas faux. Mais Jésus a dit que c'était bien aussi, donc bon. On est un peu embarrassé, vous voyez, parce qu'on prend comme base toute la partie morale, pas l'exemplum de Corinthiens 13, où tu aimeras ton prochain, ou la version d'ailleurs de Paul, qui n'est pas 2, mais 1. Toute la loi se résume, neni logo, en une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux fois dans Paul. Il synthétise encore la formule de Jésus 2 en... Là, c'est 1. Et ben voilà, on met ça au début de la partie catéchétique. Faut oser, hein. Mais on l'a pas fait. Donc, la stratégie de Paul consiste à prendre de la hauteur, une sacrée hauteur, et à remettre les choses en perspective. Plutôt que de pinailler sur des questions d'ordre liturgique ou de préséance, et pire, surtout, des questions de jalousie et de rivalité, qui sont le cœur du problème de la communauté, il s'agit d'imiter l'attitude fondamentale du Christ, l'éthos fondamental du Christ. Paul rejoint ainsi un thème qui lui est cher, qu'il a déjà employé, le fait que le Christ soit aussi un exemplum au plan moral pour tous ses disciples. Une vieille question de théologie morale qu'on a depuis le Concile avec les deux grands profs qui étaient à l'Orient à l'époque. Bon, évidemment, la rédemption que le Christ opère pour nous n'est pas de l'ordre de l'exemplum moral. Alors, on revient à des vieux débats des Lumières. Bon, le Christ, ce n'est pas simplement un saint homme que je dois imiter. C'est le Rédempteur, c'est le Fils de Dieu qui a donné son sang et sa vie pour nous. Oui, l'un n'exclut pas l'autre aussi. C'est-à-dire que le problème, si on se fixe trop sur la rédemption, on oublie un point majeur que Jésus n'a cessé de répéter dans la deuxième partie de tous les évangiles, c'est que le chemin du disciple, c'est le même. Chacun doit prendre sa croix. On peut dire, non, mais bon, le Messie, hein, c'est bon, il a... lui, c'est lui, nous, c'est nous. Hein. D'ailleurs, il a fait tout ça pour nous. Hein, donc, ben, nous, maintenant, voilà. Hein, pourquoi nous, on devrait faire comme lui, quoi. Hein, je veux dire, quand même. Voilà. Il a tout fait, donc ben, c'est bien. Ben non. Quelque part, il ouvre un chemin aussi humain. C'est-à-dire que c'est pas uniquement, j'allais dire, en tant que fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, personne exceptionnelle qui nous sauve, mais aussi, je parle sous le père, votre aumônier dira peut-être les choses autrement, mais en tout cas, la dimension exemplum peut demeurer. Et peut être importante. En tout cas, je pense que Paul l'emploie. C'est-à-dire qu'il donne aussi l'attitude du Christ, au-delà, alors, qui s'exemplifie de manière parfaite dans la passion, mais qui est aussi avant. Ça, c'est aussi le débat qu'on a avec les luthériens. C'est-à-dire que si on va au cœur de la théologie luthérienne ou évangélique, Jésus peut s'incarner le dimanche des rameaux. C'est-à-dire, le problème, c'est Jésus est mort pour vous, il est mort pour nos péchés selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures. Mais c'est qui ce Jésus ? Il a fait quoi ? Il a dit quoi ? Non, mais c'est pas grave, c'est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour nous. D'accord, mais c'était qui ? Il a fait quoi avant ? Alors, on a les évangiles, ça, c'est très catholique. On dit aux protestants, on n'a pas que Paul dans le Nouveau Testament. On n'a pas que Paul, on a les évangiles et les actes. Et dans les évangiles, on nous dit quand même beaucoup de choses avant la passion. Donc on a une petite question théologique intéressante. C'est important que Jésus ait guéri des gens avant de mourir ? C'est important qu'il ait enseigné ? Ou pas. C'est-à-dire que ce soit cet homme-là qui a vécu la vie comme il a vécu, qu'il soit mort sur la croix et qu'il soit ressuscité, ou c'est pas important. Alors, c'est vrai que si on lit Paul, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit sur Jésus? Dans toutes ses lettres, les infos que Paul nous donne sur Jésus. Galate 4, il est né d'une femme. Ouais, ok. Il y a beaucoup de gens dans cette situation-là. 2, il est né juif. Là, on restreint déjà. Enfin, bon, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. 5 millions et demi de personnes. 3 millions et demi d'hommes. Quoi d'autre encore? Ah oui, avant de mourir, il a dit... hein, 1 Corinthiens 15. Et il dit une parole bizarre, là. Il a dit un truc vachement important. Tout ouvrier mérite son salaire. Les syndicats et la sagesse chinoise sont d'accord. Est-ce que j'avais besoin du rédempteur pour me dire que tout ouvrier mérite son salaire? Alors ça, si on parle avec le chauffeur de bus, il va dire « Ah ouais, il a raison, hein. Ouais, non. » Bon, et 3, il a dit un truc qu'on aimerait bien qu'il n'ait pas dit sur le divorce. Corinthiens 7. Je, non pas moi, mais le Seigneur Jésus, quiconque. Sa femme, etc. Hein, bon, voyez. 3 choses, c'est tout. Pas de parabole, pas de Notre Père, pas de béatitude. Voilà, c'est sec, hein. Et donc, nous, comme catholiques, on essaye d'avoir une vision globale, intégrée du Nouveau Testament, dans lequel on dit il n'y a pas un canon dans le canon, c'est-à-dire tout ça est important. Et donc, Paul, oui, c'est très important, mais il y a aussi les évangiles. Et il n'y a pas que Paul, il y a les lettres de Jacques, il y a les lettres de Jean, il y a la lettre de Jude, il y a Hébreux, il y a l'Apocalypse, il y a d'autres choses. L'Esprit Saint a voulu qu'on ait beaucoup de choses. Et tout ça doit être en synthèse. Alors, quels sont les moyens employés? Donc, je vous ai mis la citation de Perelman et Titeka. C'est dans l'épidictique, donc le troisième genre, que tous les procédés de l'art littéraire sont de mise. Il s'agit de faire concourir tout ce qui peut favoriser cette communion de l'auditoire. C'est le seul genre qui immédiatement fait penser à la littérature. Le seul que l'on aurait pu comparer au livret d'une cantate, celui qui risque le plus facilement de tourner à la déclamation, de devenir de la rhétorique dans le sens péjoratif et habituel du mot. Ce qu'on évite, pas toujours, lors de certains mariages. C'est-à-dire qu'on le lit, bon voilà, mais on peut basculer dans une espèce de rhétorique facile. En effet, les commentateurs relèvent la beauté littéraire de ce chapitre, son rythme, l'effet musical des mots résultant de leur euphonie, le choix des images, l'équilibre, le parallélisme des propositions, le jeu des antithèses, du chiasme, des hyperboles, de l'anaphore. L'anaphore, rendu célèbre dans la politique française grâce à M. François Hollande, mon maître de conf de première année à Sciences Po, hein, moi, président. Donc ici, nous avons la charité, prends pitié, la charité, jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt. Ou perperetai, ou fusiostai, ou askemonei, ou zetei, ou parentunetai, ou logizetai, ou carierei, etc. Donc là, vous avez une anaphore, le manuel. Le ton lyrique et comment la forme correspond à la ferveur et à l'élévation de la pensée. Alors, ce qui est assez intéressant, donc là vous avez un problème aussi que peuvent avoir certains cinéastes dans les films très méditatifs, c'est comment vous avez à la fois une progression et en même temps une structure qui boucle. Vous n'avez pas des infos majeures à la fin qui sont au début. Et en même temps, vous devez soutenir l'intérêt, éviter la répétition et avoir une certaine progression. Hein? Donc, on va vers un climax. On va vers un climax. Alors, c'est assez drôle parce qu'il commence par les langues. Et antes glossae ston anthropon lalo kaiton angelon. J'aurais beau parler les langues des hommes et celles des anges. Agapende me eco, gegon akalko secon. Si je n'ai pas l'agapé, donc si je n'ai pas l'amour oblatif, l'amour de générosité, l'amour de miséricorde, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Alors, cumbalon alalatzon, vous avez une allitération, alalatzon. Voilà. J'aurais beau avoir la prophétie, deuxième charisme évoqué dans le débat à Corinthe, et connaître tous les mystères et toute la gnose, et avoir toute la foi, passant tempisti, expression rare. Hein. Les mystères, alors vous savez que normalement, seuls Matthieu et Luc disent les mystères, hein, dans l'évangile de Marc. À vous est donné le mystère. Didomi plus mystère et singulier. Mais Matthieu, Luc et Paul en général disent les mystères. Les mystères qui envoient l'unique mystère de Dieu, finalement. Jusqu'à transporter les montagnes, alors là certains disent c'est une petite allusion à une parole de Jésus, si vous aviez la foi vous diriez à cette montagne va te déplacer dans la mer, Alors c'est aussi un point, un écho très fort d'ailleurs à l'homélie de ce soir, c'est que moi j'aime bien le discours qui dit « La seule chose que Jésus a cherché dans sa vie, c'est la foi. La seule chose qu'il regarde chez les interlocuteurs qu'il rencontre, c'est la foi. C'est sa qualité première et c'est ce qu'il cherche chez les gens. Je vous le dis, chez personne en Israël, j'ai trouvé une telle foi. » La formule « Va, ta foi t'a sauvé », qui visiblement est appelée, c'est une formule jésuanique. On n'a pas ça avant dans la Bible, on n'a pas ça des autres maîtres juifs du temps. Jésus, c'est quelqu'un qui recherche la foi. Qui dit « Il y a une seule chose qui compte dans la vie, c'est la foi. » C'est très fort, ça, chez lui. Et voilà. « Agapende me echo », avec cette formule « Me echo une fois, me echo deux fois, me echo trois fois. » « Utenaimi »« Utenaimi »« Je ne suis rien. » Après, deuxième paragraphe. Alors, si je distribuais, t'as eu par compte, t'as toutes mes possessions aux affamés, si, alors là, il y a un gros débat. Hein, si je livrais aux flammes mon corps, alors en fait, ina ka fe somai, il y a un débat manuscrit. Alors, après, ça, c'est un problème technique. Hein, le grand spécialiste catholique était Carlo Maria Martini, l'archevêque de Milan. C'est, on croit toujours, hein, c'est quand les gens disent bah, la Bible, ça, bah, on prend la Bible. Hein, voilà. Qui l'a fait? Il y a des manuscrits, il y a des problèmes techniques. Donc, nous sommes actuellement avec Eberhard Nestlé, Kurt Allen, donc Nestlé Allen, 28e édition. Donc, depuis 150 ans à peu près, il y a des éditions critiques du Nouveau Testament. Le premier, c'était Erasme de Rotterdam, avec 13 manuscrits, donc 1523-1526. Et donc, il y a des moments, des débats. Et visiblement, il y a des copistes qui n'ont pas compris cette histoire de flamme. Il y a tout un débat, il y a des gens, ça peut. Vous pouvez trouver d'autres traductions. Agape de meko, l'agape si je ne l'ai pas, uden ofelumai. Alors, ça c'est un terme très technique de la philosophie stoïque, c'est le critère de l'utilité. C'est à la fin de Galates. Hein. Si vous vous faites circoncire, ofelumai, cela ne vous sera d'aucune utilité. C'est-à-dire que dans la vie morale, on doit rechercher l'utilité. Qu'est-ce qui est utile? Là, Paul aussi essaye de les faire. Qu'est-ce qui est utile? Alors après, vous avez peut-être un peu le sommet, et agapé, donc vous avez la liste avec des verbes. Alors, au début, un chiasme, hein, et agapé, macrothumen, cresto etae agapé. Donc la charité est macrothumen, hein, elle dilate, elle est magnanime en français, elle rend service la charité, et puis elle ne jalouse pas, etc., etc. Panta stegei, panta pistei, panta el pizzei, panta ipomenei. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au film bleu, Christophe Kieslowski, avec la musique de Zbigniew Preissner. Vous avez l'hymne à la charité, là, écoutez-le sur YouTube. Vous tapez l'hymne à la charité de Preissner, vous avez la version chantée en symphonie, en grec, plutôt grec moderne, de ce passage. Magnifique. Juliette Binoche, pour les amis. Bleu. La charité, voilà, après vous reprenez des verbes, la charité ne passera jamais. Alors les prophéties seront dépassées, les langues cesseront. Vous voyez, il a pas oublié son problème. C'est pas du tout un truc qui est pas l'éloge de la charité en vrac. Il a cette question, les langues et la prophétie. Mais les prophéties seront dépassées, les langues elles vont cesser, la gnose elle-même sera dépassée. Partielle en effet notre connaissance, partielle nos prophéties. Quand viendra l'achèvement de ce qui est partiel sera dépassé. Alors, katargetesetai, c'est le verbe clé que Hegel va traduire par Aufheben. Hein, c'est le verbe de la sanction, hein, c'est une sorte dépassée, achevée. Alors après, vous avez un peu une image qui est assez belle. Voilà. Quand j'étais un enfant, un tout petit, voilà. Et la lune os nepios, et fronun os nepios, et lo gizomen os nepios, donc là nous avons non pas une anaphore, mais une épiphore, hein, c'est-à-dire que vous finissez par la même expression. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était de l'enfant. Nous voyons actuellement, alors là il passe au nous, c'est vraiment le passage de conclusion, nous voyons actuellement de manière floue comme en énigme, alors nous verrons visage à visage, actuellement je connais de ekmerus, je connais en partie, alors je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu, alors là il y a un peu comme moi, voilà, vous qui avez connu Dieu comme vous avez été connu, nuni demenei, nuni c'est un nun, et maintenant ce qui demeure, pistis, elpis, agape, tatria tauta, meizon de tuton, et agape. Magnifiquement rendu par Preissner dans le. Menein, c'est un verbe paulinien, aussi très joannique. Je dis souvent que toute la pensée éthique de Paul tient dans l'upomone, upomenein, qu'on traduit, qui est donc aussi, qu'on traduit constance, courage, persévérance, patience, endurance, c'est tout ça que j'aime à traduire. C'est un match de boxe, l'image d'un Corinthiens 9. Vous êtes mené au point et vous êtes debout. Vous êtes mené au point, hein. Prenez plus de coups que vous en donnez, mais vous ne tombez pas. Ça, c'est Upo en dessous, Ménaï. Vous demeurez en dessous. Ben, j'ai assez parlé, non?
C'était magnifique, merci.
Un peu tard.
C'est un peu tard, je ne sais pas si on... s'il y a de la place pour les questions. Peut-être qu'on dit les conflits maintenant. Mmh. Tu peux rester pour les conflits, parce que comme tu veux.
Oui, oui.
Et du coup, s'il y en a quelqu'un qui a une question vitale à poser à Marc après,
je vraiment... peux juste dire, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés par avoir le. Parce que j'ai un fichier de... où Jean-Noël a. L'approbation, là. Mmh. Ceux qui s'intéressent un peu à la littérature.
Le mot, tu l'envoies à Tim, tu dois voir son.
C'est ça, oui, j'ai le mail de Tim. Donc, je composition des unités argumentatives, c'est on voit la sophistication de la construction argumentative.
Voilà. Merci beaucoup, vraiment, merci. C'est fantastique.